France Inter.
Il est 13h sur Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Une nuit d'enfer sur Téhéran, très violent bombardement sur la capitale iranienne. Israël annonce la mort d'un des hommes forts du régime iranien, Ali Larijani. Nous serons en direct de Jérusalem. Nous irons aussi longuement à Téhéran, y retrouver notre correspondant. Nous serons à Vars, dans l'Isère, où se déroulait ce matin l'hommage aux soldats français tués la semaine dernière en Irak. Et puis nous parlerons de la bataille du pétrole. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Les Émirats Arabes Unis tentent de continuer à exporter.
Ils ont une sortie de secours et une seule sur le golfe d'Oman, un gigantesque port logistique et pétrolier. Il est lui aussi pris pour cible par les Iraniens.
Vos explications dans quelques minutes et à partir de 13h30, faut-il se méfier des caméras de vidéosurveillance? On sait que les Israéliens et les Iraniens s'en servent pour s'espionner. Et chez nous, sommes-nous à l'abri d'espionnage ou d'utilisation criminelle de ces caméras? 01 45 24 7000 pour vos questions. À suivre encore, les élections municipales. Retrait à Marseille du candidat insoumis pour éviter une victoire du Rassemblement National. Nous nous intéresserons aux fusions de listes avec des résultats parfois étranges. Et puis notre feuilleton sur la route des municipales étape à Strasbourg.
Ça va être très chaud. Ça va se jouer à pas grand-chose.
Ce sera à 13h45. 13h50, c'est la France. Cyril Petit et la mode des boutiques éphémères dans nos communes. Juste avant 14h, c'est une chanson. La comédienne Béatrice de la Boulée demande Maria Carré.
J'en fais une version un petit peu parodique. Je la chante très fort et très faux. Mais en même temps, un hommage parce que Maria Carré a une voix éblouissante et elle vient nous chercher dans les tripes.
Et ce sera avec Julien Baldacchino, sans oublier l'émotion de Jean Dujardin, qui rend hommage ce matin à son ami Bruno Salomon, le comédien disparu dimanche. Et l'histoire de cette Renault 5, retrouvée 40 ans après sans avoir roulé, elle vient d'être vendue aux enchères, plus de 40 000 euros. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Vars, à quelques kilomètres au sud de Grenoble. Les drapeaux y sont en berne depuis la mort jeudi de l'un des 3500 soldats du 7e bataillon de chasseurs alpins, Arnaud Frion, tué au Kurdistan irakien par une frappe de drone iranien. Marié, père de famille, il avait 42 ans, s'était engagé dans l'armée de terre à 19 avant d'enchaîner les opérations une dizaine et de recevoir 4 citations militaires. Ce matin, la cérémonie d'hommage était sur place présidée par la ministre des Armées et suivie pour nous par Laurent Gallien.
Une cérémonie d'une heure environ sur la grande place d'armes du quartier de Reignès, le quartier général des troupes de montagne ici à Vars. Une cérémonie émouvante et solennelle marquée par l'entrée d'un cercueil porté par des commandos montagne et par le survol d'un hélicoptère. L'adjudant-chef Arnaud Frion a été fait major à titre posthume. Il a reçu également là, devant ses frères d'armes, la Légion d'honneur. Dans son discours, la ministre des Armées Catherine Vautrin a salué en lui la figure même du commando montagne, une des plus belles figures du soldat français, rappelant les faits d'armes au combat d'Arnaud Frion au Mali ou encore en Afghanistan. Elle a rappelé le pourquoi également de la présence française au Kurdistan irakien où a été tué le soldat, la lutte contre le terrorisme et au-delà saluer l'engagement des militaires qui connaissent les dangers de leur mission mais pour qui, je cite, il y a plus fort que la peur, le choix de servir.
Reportage à Vars, ici Isère, la guerre au Moyen-Orient qui après 18 jours est toujours aussi intense avec la nuit dernière donc de lourds bombardements israélien sur Téhéran, la capitale iranienne, et Israël annonce ce matin, bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes en direct de Jérusalem, la mort de 2 des principaux dirigeants iraniens encore en vie.
Oui, le chef de la force paramilitaire Basij, il s'appelle Gholam Reza Soleimani, et puis surtout l'homme de la répression des manifestations du début de l'année, le dirigeant de fait de l'Iran, le chef de la sécurité nationale Ali Larijani. Annonce israélienne, vous l'avez dit, en milieu de matinée du ministre de la Défense Israël Katz. Pas de confirmation côté iranien pour le moment. Israël Katz qui affirme dans un communiqué que les deux hommes ont rejoint Khamenei, dit-il, donc l'ancien guide suprême, et tous les membres de l'axe du mal au plus profond de l'enfer, un ton messianique pour une guerre de décapitation du régime des mollahs et des gardiens de la révolution qui continue. Ali Larijani, vu pour la dernière fois en public vendredi, c'était lors de manifestations dans la capitale iranienne. Je vous rappelle que Téhéran n'a pour le moment donc pas confirmé cette information. Ouais. Et pour peut-être brouiller les pistes, un message a été posté en milieu de matinée sur le compte X du même Ali Larijani. Il s'agit d'un hommage à des marins iraniens tués la semaine dernière. dernière.
Merci Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. Des explosions ont également été entendues à Jérusalem ce matin. L'armée israélienne a annoncé avoir détecté des tirs de missiles en provenance de l'Iran. L'Iran qui bloque toujours le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial. Alors les Émirats Arabes Unis tentent de faire sortir le pétrole, mais par un autre point de passage. Isabelle Labéry, on vous retrouve. Vous rentrez justement d'une mission aux Émirats Arabes Unis. Ce complexe-là vient lui aussi d'être ciblé.
Oui, le port de Fujairah sur le golfe d'Oman, situé en fait juste à la sortie du détroit d'Ormuz. Depuis samedi, ces installations sont visées quasiment chaque jour par des drones iraniens. Nouvelle attaque ce matin. Au moins deux réservoirs de stockage endommagés avec des incendies qui libèrent d'immenses panaches de fumée noire. Le site ne peut plus fonctionner normalement. La compagnie nationale a d'ailleurs suspendu ses chargements de brut. On ne sait pas pour combien de temps. Or, pour les Émirats, Fujairah est d'une importance capitale. C'est en effet le seul et unique moyen de contourner le blocage du détroit d'Ormuz. Le pétrole y arrive par les terres grâce à un oléoduc qui commence son parcours dans les grands champs pétroliers d'Abu Dhabi, 350 km plus au sud. Ce pétrole est ensuite chargé sur des supertankers direction la Chine, l'Inde, le Japon ou l'Europe, sans risque de frappe iranienne. Mais les quantités sont évidemment limitées, au maximum 1 500 000 voire 1 800 000 barils par jour. Comparé aux 20 millions quotidiens du détroit d'Ormuz, c'est évidemment très peu. Si cette voie de secours est elle aussi touchée, plus une seule goutte de pétrole ne pourra alors quitter le Golfe.
La bataille du pétrole dans le Golfe, décryptage signé Isabelle Labéry. Et tout cela a de lourdes conséquences sur notre économie. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Jérôme.
Il y a eu des promesses de baisse de prix des carburants qui ont été faites par les distributeurs la semaine dernière. Où est-ce qu'on en est ?
Alors les prix sont bien contenus pour les majors. Total, par exemple, affiche quasiment partout 1,99 le litre pour le super, mais 2,09 le diesel. Dans les supermarchés, c'est plus au cas par cas. Leclerc et Système U ont annoncé des baisses de prix, mais par endroit, ils ne sont pas moins chers que leurs concurrents. Et les prix vont continuer comme ça à faire le yo-yo, puisque qu'on vient de le voir, au niveau mondial, le cours du pétrole reste un thermomètre de l'intensité de la guerre et que les dernières attaques sur ces sites énergétiques ont fait remonter encore ce matin les prix.
De leur côté, les transporteurs routiers, qui font partie des premiers concernés, sont reçus cet après-midi au ministère des Transports.
Eux se fournissent à la cuve, comme en station, les prix sont montés en flèche. Impossible pour l'instant de rétrocéder cette hausse sur les clients, dit Jean-Marc Rivera du syndicat OTRE, car les factures respectent des délais précis.
On les émet généralement au mois M+1, plus les délais de paiement de ces factures. Il y a donc un décalage de deux mois et demi, entre ce que nous devons DTC à l'achat et potentiellement la répercussion aux clients. Donc cela pose des problèmes de trésorerie extrêmement importantes, ce qui veut dire que les entreprises, aujourd'hui, elles ont des difficultés à acheter leur carburant. Certaines laissent déjà des véhicules à l'arrêt parce qu'elles n'ont pas les ressources financières pour pouvoir assumer ces paiements.
Les routiers demandent donc des aides à l'État comme en 2022, selon leur flotte, avec des remises aussi à la pompe, arguant du fait que sans poids lourd, il n'y a plus d'industrie, plus de commerce, ni de stations-service approvisionnées.
Merci Mathilde Dehimy.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Retrait et fusion, ce sont les deux mots de l'entre-deux-tours des élections municipales. Avant d'en venir aux fusions, notamment les plus polémiques, celles entre socialistes et insoumis. Les retraits. À Marseille, l'insoumis Sébastien Delogu voulait fusionner avec le maire de la ville, le socialiste Benoît Payan, qui a refusé, malgré la menace de victoire du candidat du Rassemblement National, Franck Alizio. Alors ce matin, l'insoumis annonce qu'il se retire.
Jamais je ne céderai un millimètre de terrain face à ceux qui veulent condamner la jeunesse marseillaise à la ségrégation et à la misère. Face à ceux qui discriminent, Marseille ne doit jamais tomber dans les mains de ces gens-là. Malheureusement, en refusant tout front antifasciste au second tour, Benoît Payan prend et fait la démonstration éclatante que le combat contre l'extrême droite valait moins à ses yeux que la soif de pouvoir. Face à l'irresponsabilité d'un homme, nous serons responsables pour 1 million. C'est dans cet esprit de responsabilité que nous prenons la décision de retirer notre liste et de ne pas participer au pari inconséquent de Benoît Payan. L'orgueil et l'ego d'un homme ne doivent pas précipiter notre ville dans l'abîme.
Le député insoumis de Marseille, Sébastien Delogu, au micro de Mathilde Vinceneux. Et puis, il y a les fusions, mais en politique, 1+1, ça ne fait pas toujours 2. Ainsi à Nantes, les socialistes et les insoumis s'associent pour ne pas laisser le champ libre à la droite, mais sans tomber d'accord sur un programme, les insoumis seront même dans l'opposition aux socialistes après dimanche, si la liste conjointe de gauche est en tête. Autre scénario, à Lille, là les socialistes arrivés premiers ont fait accord avec les écologistes, troisième, au détriment des insoumis, deuxième du premier tour, qui forcément l'ont un peu mauvaise. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
Mathieu, vous êtes rendu ce matin sur le marché de Oisem.
Tractage en cours juste à côté de nous, les insoumis, la nouvelle liste aussi socialiste et écologiste, main dans la main pour la photo de famille avec le sourire. Mais les langues se délient petit à petit dans la liste des Verts. Depuis hier soir, la décision de s'allier avec les socialistes s'est jouée dans un vote très serré. Vote consultatif, assure un proche des négociations, décisionnel selon d'autres sources. En tout cas, Stéphane Bally a bien choisi de partir avec les socialistes, alors que de nombreux écolos souhaitaient se rapprocher des insoumis et leur tête de liste. Lawaria Hadouche, 23% au premier tour, elle fustige désormais ce choix pour un élu d'opposition qui rejoint le maire sortant.
Quand on a un Stéphane Bally qui a préféré son intérêt personnel trahir ses colistiers et son électorat, vous pensez sincèrement qu'ils ont des chances? Aujourd'hui, on veut faire croire que le pouvoir appartient à quelques-uns. C'est pas parce qu'il y a une alliance de seconde zone, de tambouille entre eux, que les Lillois, les Lilloises vont être en soutien de cette alliance qui est mortifère.
Les insoumis veulent battre le pavé. Des renforts sont attendus à Lille. La candidate mise sur un report de voix des Verts pour sa liste. Une figure écologiste dans la région nous confie ses doutes. Je ne suis pas certain que ce soit le bon choix. D'après nos informations, parmi les Verts présents sur la liste de Stéphane Bally, certains seraient même tentés de s'afficher avec les insoumis dans cet entre-deux-tours.
Pour rentrer dans le détail, Mathieu, là c'est un accord entre Verts et Socialistes sur un programme. Ils veulent diriger ensemble, c'est ça ?
Oui, certains membres de la liste des écologistes vont intégrer ce nouveau ticket commun parce que les Verts vont siéger dans la majorité. C'est ce qui a été décidé dans le pacte de gouvernance, cheville ouvrière de cet accord d'entre-deux-tours. Et puis hier soir, l'écologiste en tête de liste, Stéphane Bally, a insisté, ce sera une co-gestion. Il faut bien comprendre que les décisions seront prises ensemble avec des discussions, des débats, mais ils veulent surtout éviter une vision très verticale et des socialistes qui voudraient imposer leur projet sur ces idées. Car oui, il y a aussi un nouveau programme, des ajustements des deux côtés sur les grandes divergences entre les deux listes.
Merci Mathieu Bonnour à Lille avec les moyens techniques de Benjamin Reyes. Fusion également à Tulle, la ville de François Hollande, l'ancien président de la République qui déconseillait les accords entre socialistes et insoumis. Bien dans sa ville, le maire socialiste en tête au premier tour annonce la fusion avec la liste communiste, insoumise et écologiste. À Montpellier, 3 listes seront en lice dimanche pour le second tour. Le maire sortant Mickaël Delafosse, socialiste, la députée insoumise Nathalie Auziol et l'industriel Moed Altrad, arrivé 3e, qui lui n'a fusionné avec aucune des autres listes. Il y a un 3e homme également à Bordeaux, qui n'est ni un homme ni une femme politique, c'est Philippe de Sertine, économiste, souvent vu dans les médias, plutôt classé à droite. Bonjour Victoria Coussa.
Bonjour.
Mais qui refuse définitivement de s'allier avec le candidat macroniste.
Et pourtant, cet outsider qui perturbe ses plans a tout d'un homme politique. Le goût des plateaux télé. Philippe de Sertine se présente comme expert économique de la punchline et de la mise en scène de campagne, comme ce clip dont le sexagénaire est très fier quand il court dans Bordeaux et que ses soutiens le rejoignent à petite foulée. Grand, courtois, toujours en costume, propriétaire d'un château dans le Lot-et-Garonne. Son profil parle à la bourgeoisie bordelaise et il a pris goût au pouce en l'air des habitants, nous dit-il, sur les marchés, dans la rue, au buzz sur les réseaux sociaux. Les jeunes l'appelleraient même Monsieur TikTok. À l'entendre, il en est donc de son devoir de défendre jusqu'au bout cette société civile écœurée des partis, de ses petits arrangements. Lui, dont la femme, Laurence, a longtemps été membre de la majorité de l'ancien maire Alain Juppé, elle, écartée lors des dernières municipales par un certain Thomas Cazenave. L'ancien ministre insiste encore pour l'Union. Ses appels sonnent dans le vide, comme ceux du patron des LR Bruno Retailleau. Philippe de Sertine a fini par lui répondre hier soir, selon nos informations, mais l'échange a tout sauf rassuré les soutiens du macroniste. L'un de tacle, c'est un dingue totalement irrationnel.
Portrait signé Victoria Coussa. Autre configuration qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent, c'est à Strasbourg. Une alliance entre le Parti Socialiste et Horizon, donc la droite. C'est Catherine Trottmann, l'ancienne maire socialiste, qui s'accorde avec le candidat Horizon. Les deux partis socialistes et Horizon retirent leur soutien à ces deux candidats. Parmi les villes qui peuvent basculé ce dimanche. Il y a celle de La Flèche. Dans le département de la Sarthe, nous sommes entre Le Mans et Angers. Cette ville est dirigée par la gauche depuis 1959, mais le candidat du Rassemblement National y est arrivé en tête quelques jours seulement après la venue sur place de Marine Le Pen. Reportage Julien Pénaud.
Des électeurs socialistes encore abasourdis par le score du RN, comme Anne.
Je suis catastrophée, on verra dimanche prochain si on met une fleur ou un cierge et qu'il y aura un peu moins d'abstention.
30% des électeurs se sont abstenus, soit plus de 3200 habitants. L'enjeu est donc là, surtout quand on sait que Romain Lemoigne a moins de 300 électeurs d'avance sur la maire sortante socialiste. Nadine Grollet-Certenay qui va se concentrer sur ceux qui ont boudé les urnes.
Voilà, essayer de mobiliser les gens qui n'ont pas voté au premier tour.
Jean-Sébastien, électeur de gauche, se reconnaît dans ce discours.
Peut-être essayer de capter une partie de l'électorat de M. Da Silva, parce que ça représente un peu plus d'un millier de voix.
C'est par exemple le cas de Christian, retraité électeur du candidat d'hiver droite Michel Da Silva au premier tour, car déçu de la maire sortante.
Je trouvais qu'elle ne s'occupait pas assez du centre-ville et des commerçants.
Mais les 43% du RN changent la donne. Romain Lemoigne appelle lui ses électeurs d'hiver droite à voter RN, un vote qu'il présente comme celui de l'alternance, l'occasion de renverser la maire socialiste, de changer les choses aussi, nous confient des partisans du Rassemblement National qui reprochent un manque de dynamisme à la maire sortante. Nadine Grollet-Certenay rappelle que la gestion du Covid-19 et la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine sont passées par là.
En reportage ici mène à Annecy ce matin, un enfant de 7 ans est mort percuté par un bus. Il se rendait à l'école accompagné de son père et de ses deux sœurs quand il a été percuté par ce bus aux alentours de 8h25. La préfecture et le parquet d'Annecy expliquent que le chauffeur du bus est en état de choc, qui n'a pas pu être entendu par les enquêteurs, mais que les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants effectués se sont révélés négatifs. Et puis cette soirée agitée à Noisiel, en Seine-et-Marne, les locaux de la police municipale pris pour cible, une attaque au mortier d'artifice et une tentative d'intrusion. Tout cela après des interpellations liées au narcotrafic. Selon le procureur de Meaux, le parquet a ouvert 3 enquêtes, dont l'une vise une intervention musclée des forces de l'ordre. Je vous parlais il y a quelques minutes de cette nuit d'enfer à Téhéran, la capitale iranienne, bombardée comme rarement depuis 18 jours par Israël. On y retrouve justement notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes en ligne avec nous, Siavosh Ghazi?
Oui, je t'entends bien.
Oui, vous m'entendez, Siavosh. Bonjour à vous.
Oui, je vous entends bien. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous donner de vos nouvelles et nous raconter la nuit que vous venez de vivre?
Écoutez, la nuit a été très mouvementée. À 3h du matin, il y a eu de très fortes explosions de non loin de chez moi, à environ 1,5 km. Et là, c'est une base militaire qui a été visée avec des bombes particulièrement puissantes, les plus puissantes qu'on n'a jamais entendues depuis le début de la guerre en Iran. 4 ou 5 bombes GBU qui ont frappé donc ce quartier, cette base dans le nord de la capitale iranienne. La souffle est venue donc frapper l'immeuble dans lequel j'habite, et donc le cadre donc de la fenêtre de ma propre chambre donc a été donc s'est détaché du mur de 5 cm au moins, donc une explosion particulièrement forte donc dans la nuit, qui ont été entendues et ressenties dans un périmètre de plusieurs kilomètres autour. Un ami qui habite à 2 kilomètres de là a eu toutes ses fenêtres complètement explosé par la souffle de l'explosion. Donc, visiblement, d'après ce qu'on peut maintenant comprendre, c'est donc Alila Rejani qui était visée dans ces frappes particulièrement fortes dans le nord de la capitale iranienne. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur le sort d'Alila Rejani, parce qu'il n'y a ni confirmation ni démenti des informations qui ont été données par Israël depuis maintenant près de 4 heures.
Ouais, Alila Rejani qui est présenté comme l'un des principaux dirigeants iraniens depuis la mort du guide suprême il y a quelques jours. Vous avez cru que votre immeuble allait s'effondrer, Siavosh?
S'effondrer, non, mais c'était, j'ai vraiment cru, après la première frappe, la première explosion, j'ai cru que l'appartement à côté était donc visé, que c'était la fin. Immédiatement, je suis sorti de la chambre, ma femme, parce que je dors très peu la nuit, dormait dans la chambre à côté, pour me laisser de me reposer dans la nuit, à cause du travail intense que je mène depuis 17 jours, ouais. 18 jours maintenant. Et on s'est retrouvé dans le couloir, on s'est serré dans les bras l'un de l'autre, simplement en se disant que c'était la fin et qu'on voulait être ensemble jusqu'au bout, et pas moyen d'aller à l'abri parce qu'il n'y a pas d'abri, et les frappes étaient si intenses qu'il n'y avait même pas le temps de descendre au sous-sol, donc une effrayeur intense qu'on a vécu ici, non seulement moi mais beaucoup de gens dans ce quartier et dans mon immeuble.
Dans ces cas-là, vous êtes prisonnier finalement, vous ne pouvez même pas entendre les premières détonations et sortir, c'est ça ?
Alors, ces détonations ont été particulièrement puissantes. Et donc, ça s'est passé en moins de 30 secondes. C'est-à-dire que des frappes, des explosions qui se suivaient. Donc, le seul réflexe qu'on a eu, c'est de se mettre dans le couloir, loin des vitres, des fenêtres, dans l'espoir qu'il n'y ait pas de frappe sur l'immeuble. Mais finalement, après, à 5h du matin, je suis allé faire un tour pour voir ce qui s'était passé, parce qu'il y a aussi un commissariat à 800 mètres de chez moi, à vol d'oiseau. Je pensais au départ que c'était ce commissariat qui avait été visé, et là je me suis rendu compte qu'en fait non, c'était pas le commissariat qui est intact, en fait c'est une cible militaire qui avait été visée avec ces bombes GVU.
Il y a encore beaucoup d'habitants dans votre immeuble, Siavosh Ghazi, où beaucoup ont fui depuis 18 jours?
Dans mon immeuble, il y a 15 appartements et 6 familles sont déjà parties. Les autres sont restés ici à Téhéran. Mais depuis le début de la guerre, progressivement, les gens partent de plus en plus. Et donc, la ville aussi se vide. Donc, ça peut vous donner une idée de la population qui reste dans la capitale iranienne.
Merci Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran, correspondant de RFI et de France Inter, nous avoir décrit cette nuit d'horreur et de frayeur extrême donc, que vous avez vécue. Et merci de continuer à nous donner des informations tous les jours en direct de Téhéran sur cette guerre donc, qui a débuté il y a maintenant 18 jours. C'est une figure populaire du cinéma français, de l'humour, de la télévision aussi. Les hommages continuent d'affluer après la disparition du comédien Bruno Salomon, dimanche, mort d'une longue maladie, pour reprendre l'expression de ses proches, à l'âge de 55 ans. Parmi ses complices historiques sur scène et devant les caméras, l'acteur Jean Dujardin, qui avait débuté avec lui dans la troupe des Nous c'est nous, on s'en souvient, au milieu des années 90. Jean Dujardin qui a eu ces mots pour son ami, c'était ce matin sur France Inter, dans l'émission La Bande Originale.
Quand j'ai vu ce mec sur scène, je vais essayer d'en parler parce que c'est difficile, mais quand je l'ai vu sur scène, j'ai vu la drôlerie de cet homme, la beauté de cet homme. Je me suis dit, c'est Marlon Brando avec la gueule de Jim Carrey, une puissance de jeu inouïe, et puis derrière, un très bel homme et une très belle âme, parce que très soucieux des autres, très curieux des autres, il vous... percé toujours à jour, quand vous mangiez avec lui à chaque fois, il essayait de savoir, il bousculait votre pudeur. C'était très important pour lui de qu'on se signifie, qu'on s'aime, qu'on se dise. Parfois il m'engueulait en me disant, tu me dis jamais que tu m'aimes. J'y mets, je suis pudique, je sais pas le dire. Et puis tu vois bien, on bosse ensemble depuis des années, mais tu sais que je t'aime. J'ai eu le temps de lui dire que je l'aimais. Et je suis très heureux de tous ces messages qu'on lui donne.
L'hommage de Jean Dujardin pour Bruno Salomon au micro de Nagui et de Leïla Kadour ce matin sur Inter. Le Paris Saint-Germain a traversé la Manche avec 3 buts d'avance dans ses valises. 8e de finale, retour de Ligue des Champions de football ce soir à Londres pour les Parisiens, tenants du titre, qui s'étaient imposés 5-2 la semaine dernière au Parc des Princes. Alors ça se présente plutôt bien. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Jérôme.
Mais on est toujours prudent avec le Paris Saint-Germain évidemment. Vous êtes à Londres pour Inter. Est-ce que la presse anglaise croit un retournement de situation, Nicolas?
Elle est à l'unisson, hein, on va dire, des supporters de Chelsea ici. Une victoire face au PSG, allez, pourquoi pas, mais la qualification, c'est plutôt no way. Hein, 10-1, la cote ici chez les bookmakers de Londres pour une qualification de Chelsea en quart de finale. Faut plutôt être joueur. Et d'ailleurs, c'est pas cette statistique finalement qui est mise en avant lorsqu'il s'agit d'évoquer Chelsea dans cette presse anglaise. C'est plutôt l'amende de 10 millions de livres sterling infligée au club londonien pour paiements illégaux effectués sous l'ère du président. précédent propriétaire, le russe Abramovich. Le Times et le Guardian évoquent cette sanction avant même l'enjeu de la rencontre, en tapant aussi, il faut le dire au passage, sur le nouvel entraîneur, Liam Rosenior, de plus en plus critiqué depuis son arrivée ici dans l'ouest de la capitale anglaise.
L'ancien entraîneur de Strasbourg, on s'en souvient. Plus globalement et au-delà de Chelsea, Nicolas, ça va mal pour les clubs anglais. Il y en a 6 en 8e de finale, mais les 6 pourraient être éliminés.
Oui, c'est assez incroyable hein, quand on sait qu'ils étaient effectivement tous qualifiés. Donc les 6 clubs anglais au départ qualifiés pour ces 8e de finale, 5 directement, le dernier Newcastle, le 6e via les barrages, et que tous effectivement sont en mauvaise posture. Chelsea donc face au Paris Saint-Germain, mais aussi Arsenal, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Tottenham, Aston Villa, aucun de ces clubs n'a gagné son match aller. Deux raisons à cela selon Gary Cottrill, journaliste pour Sky Sport, le diffuseur du championnat anglais.
L'arrogance, c'est peut-être un peu fort, mais disons qu'on est trop confiant avec les 5 équipes qualifiées directement pour les 8e. Et puis regardez, le PSG le week-end dernier, pas de match de Ligue 1. Nous, on dit que la Première Ligue est le plus important, on n'en a rien à faire des Coupes d'Europe. On ne peut pas jouer le dimanche après-midi et espérer être aussi bon qu'un club qui n'a pas joué le week-end avant la Ligue des Champions.
Arsenal, Newcastle et Liverpool hein, quand même ont de bonnes chances de se qualifier ce soir, on verra, et d'éviter en tout cas le zéro pointé en quart de finale, ce qui serait une première ici en Angleterre depuis 2015.
Nicolas Perronnet en direct de Londres, le coup d'envoi de Chelsea Paris Saint-Germain, Nicolas.
21h.
21h, heure de Paris.
20h, heure londonienne.
Absolument. Nicolas Perronnet en direct de Londres avec le coup de main de Julien Froment. Et puis des nouvelles de cette voiture. À l'histoire étonnante, on vous en a déjà parlé ici même dans ce 13-14. Cette Renault 5 qui a dormi pendant 44 ans dans une grange de Saône-et-Loire sans jamais rouler ou presque. 12 km au compteur. Sa propriétaire n'avait jamais osé s'en servir. Le véhicule a été retrouvé il y a quelques semaines et vendu aux enchères ce week-end. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Jérôme.
47 000 euros pour cette vente. Et vous avez retrouvé l'heureux propriétaire, Laurent, il est suisse.
Oui, et c'est en réalité un collectionneur qui n'en est pas à son coup d'essai. Un passionné de voitures vintage donc, mais en état neuf. Cette Renault 5 1982 va donc rejoindre plus d'une dizaine de voitures de sa collection.
Oui, il est tout à fait capable d'acheter des voitures à plusieurs millions d'euros, mais cette voiture, il l'a achetée parce que c'était une Madeleine de Proust.
Ce collectionneur a donc non pas une étagère pour aligner ses trouvailles, mais plutôt un hangar, nous explique Gauthier Rossignol de la maison de vente aux enchères à Goutte.
Il a une résidence en France, et une résidence dans laquelle il conserve un petit peu ses jouets, on va dire, car cette R5 rejoint va constituer un trio composé déjà d'une Citroën 2 chevaux qu'il a acheté chez nous il y a quelques années, une Renault Clio Williams qui n'avait elle aussi que 15 km. Mais à côté de ça, il y a des Golf GTI, il y a des 205 GTI, et puis après, oui, il y a des Porsche, il y a des Ferrari, il y a des Groupe C, il y a des choses bien plus chères. Il a son petit univers où il conserve ses voitures de collection et elles ont toute la même valeur à son cœur. On considère cette voiture un peu comme une œuvre d'art. Voilà, c'est son petit musée personnel.
Mais alors pourquoi acheter une Renault 5 à 65 000 euros, quand même frais d'agence inclus, quand on peut s'offrir toutes les voitures les plus chères du monde ?
Cette voiture, on avait l'impression qu'elle était passée un peu à travers le temps. C'était, comme disent les Anglais, j'aime bien ce terme, une time capsule, comme une capsule spatio-temporelle.
Et vous pouvez, vous aussi, Jérôme, vous acheter une Renault 5 TL 1972, couleur verte, entièrement neuve, à un prix plus modeste, 30 euros. C'est sur site Renault.fr.
D'accord. Et
c'est évidemment une reproduction 1/43e.
D'accord. Donc là, je peux la poser sur l'étagère.
Elle n'a jamais roulé.
Ah, c'est garanti. Merci, Laurent Kramer, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin. Puis à partir de 13h30, nous parlons des caméras de vidéosurveillance, désormais au cœur des guerres, car elles permettent de surveiller la vie de l'ennemi à moindre coût. On le voit en ce moment avec la guerre entre Iran et Israël. Alors faut-il se méfier des caméras qu'il y a dans nos rues et qu'on installe chaque jour? 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton sur la route des municipales. Aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg. Et puis 13h50... C'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit, Julien Baldacchino, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien de Val-au-Perche dans l'Orne à Castres dans le Tarn, en passant par Boissize, la Bertrand en Seine-et-Marne, je vous parle des boutiques éphémères, hein, ces pop-up stores, et des boutiques à l'essai qui se développent dans nos communes.
Et avec vous Julien, une comédienne.
Béatrice de la Boulée, comédienne et humoriste qui est à l'affiche de la série Tropique Criminel, qui est sur scène dans un spectacle nommé Héroïne et qui a choisi une chanson de Mariah Carey nommée Hero.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
J'ai voulu dans ce livre mettre des mots, mes mots, sur ce que j'ai traversé et dire que j'ai retrouvé la joie de vivre.
Et la joie de vivre de Gisèle Pélicaud, un événement Flammarion.
Quand on est entrepreneur, il y a ce moment où son activité prend de l'ampleur, avec davantage de clients, sur des affaires plus importantes. Et là, son activité change d'échelle, sur des dossiers encore plus grands, sur des projets encore plus...
Quand vous voyez plus grand pour vos affaires, BNP Paribas met toute son expertise à votre service. Nous finançons vos projets, même les plus ambitieux, grâce à des solutions adaptées. Demandez conseil à l'un de nos 2000 chargés d'affaires. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Sous réserve d'études et d'acceptation par BNP Paribas. Voir détails et conditions sur mabanquepro.bnpparibas.
Après Illusion perdue, France Inter, partenaire du nouveau film de Xavier Giannoli, Les rayons et les ombres.
Faudrait raconter comment on en est arrivé là.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire vraie de Jean et Corinne Luchère.
L'Allemagne veut la paix.
Tout ça c'est un jeu de dupes et je te sais trop intelligent pour pas le voir.
Un père et sa fille pris dans l'engrenage de la collaboration.
J'ai rien à justifier.
Moi je savais pas.
Qu'est-ce que tu as recherché à savoir ?
Les rayons et les ombres. Avec Jean Dujardin, Nastia Golubeva et Auguste Dill, le 18 mars au cinéma, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature. Par tous les temps. À découvrir sur utopia.com.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
Bon, il fait beau parce que l'anticyclone s'installe sur la France, c'est
et
ça
il
la
apporte, exactement, il apporte avec lui un temps calme, un ciel dégagé et beaucoup de soleil. Les quelques grisailles qui tentent de persister encore sont vite évacuées en cours de journée, tout comme le Mistral qui, après avoir tenté de résister par rafale de 60-70 km par heure, va finalement cesser toute activité cet après-midi. La situation favorise les inversions thermiques avec un peu de froid, voire quelques gelées au lever du jour. Le ciel est dégagé, effectivement propice au refroidissement nocturne, mais le soleil très généreux permet encore de faire grimper nettement les températures.
Et grande douceur cet après-midi.
Et alors on va en profiter car Météo France annonce l'arrivée de la bise qui va faire baisser le ressenti. Aujourd'hui l'ambiance est quand même encore printanière. Les maximales atteignent 17-20 degrés sur de nombreuses régions, voire plus de 20 dans le sud-ouest, localement 21-22 sous le ciel très lumineux de la Méditerranée. Le printemps est un peu plus lent à s'imposer près des frontières du Nord jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et au Lyonnais, avec tout de même 13 à 18 degrés.
Stéphanie Fromentin.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est devenu un objet de notre vie quotidienne. Il y en a des centaines de milliers dans nos rues. Les caméras de vidéosurveillance, elles sont au cœur des programmes de quasiment tous les candidats aux élections municipales. Et en même temps, au cœur de la guerre en ce moment au Moyen-Orient. Car ces images peuvent être piratées et utilisées pour du renseignement ou de la criminalité. Alors comment s'en protéger? Faut-il cesser de les installer partout? Nous en parlons avec notre invité. Bonjour Thibault Hénin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes en direct des studios d'ICI Héro à Montpellier, que je remercie au passage. Thibault Hénin, je vous présente. Vous êtes expert informatique, télécommunication, cybermalveillance, entre autres. Et vous intervenez auprès de la justice. Vous êtes inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Montpellier et sur le tableau de la Cour administrative de Toulouse. C'est la formule consacrée. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui ont des questions pour vous. Vous pouvez aussi passer pour vos questions ou vos remarques d'ailleurs via l'application Radio France, c'est l'onglet Réagir. Thibault Hénin, je voudrais d'abord vous demander si vous avez été surpris quand on a appris il y a quelques jours que les Israéliens avaient utilisé des caméras de vidéosurveillance qui surveillent normalement ce qui se passe à Téhéran pour piéger le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei. Est-ce que n'importe qui peut avoir accès à ce type de réseau connecté?
Alors la surprise, elle n'est pas venue du fait qu'ils aient utilisé les caméras. Parce qu'en fait, en théorie, tout le monde dans le milieu de la cybersécurité savait que c'était faisable. C'est juste que là, on a vu que ça a été fait. C'est-à-dire, on est passé de la théorie à la pratique. Et donc après, oui, n'importe quel criminel peut accéder à des caméras de surveillance. Mais la subtilité, c'est que les criminels ne savent pas a priori sur quelle caméra ils vont tomber. Donc ils ne peuvent pas cibler une caméra à tel endroit particulièrement. Ils vont plutôt scanner Internet à la recherche des caméras. Et quand ils ont de la chance, ils tombent sur une caméra qui est piratable. Ils piratent celle-là, mais ils ne savent pas a priori où est-ce qu'ils vont tomber.
Alors, d'abord, la surprise, ça veut dire que, on sait que ça peut être fait, mais là, peut-être pour la première fois, ça a été utilisé pour ce type de bombardement ou pour éliminer une personnalité.
Alors, ça a sûrement été utilisé avant. Le changement, c'est que maintenant, on communique dessus. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des opérations d'espionnage qui, à mon avis, ont utilisé des caméras de surveillance. La différence, c'est qu'ici, les Israéliens communiquent sur le fait de les utiliser.
Vous dites il faut scanner ces caméras, c'est-à-dire comment ça se passe quand on est un cybercriminel et qu'on veut intégrer un réseau, qu'on veut récupérer des images?
Alors, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous équiper en outils d'exploitation de caméras, c'est-à-dire que vous allez suivre l'actualité sur les vulnérabilités, qui sont les failles qui sont publiées au sujet de telle ou telle caméra. Vous faites votre boîte à outils. Et ensuite, vous programmez un petit logiciel qui va essayer de se connecter à tous les périphériques connectés à Internet au monde et qui va tenter ces petites attaques sur chacun des périphériques 1 à 1. La plupart du temps, vous tombez sur autre chose que des caméras. De temps en temps, vous tombez sur des caméras qui ne sont pas vulnérables. Et de temps en temps, vous avez de la chance. C'est une caméra et votre outil fonctionne. Et vous obtenez l'accès sur cette caméra et vous la mettez dans un coin, dans une sorte d'annuaire pour plus tard.
Mais je suis dans mon bureau n'importe où en France, je peux aller pirater un système en Australie par exemple?
Oui, tout à fait. N'importe où dans le monde, c'est accès. Enfin, pour peu qu'il y ait une caméra vulnérable à cet endroit-là et qu'il soit en Australie, oui, vous piraterez une caméra en Australie. Mais a priori, vous ne saviez pas que vous habiteriez en Australie.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'opportunisme. On regarde...
Complètement.
Ouais, d'accord. De quel matériel est-ce qu'il faut disposer, Thibaut Hénin? Est-ce que c'est un matériel quand même assez sophistiqué?
Non, un ordinateur, une connexion Internet, ça suffit.
Un ordinateur, une connexion Internet, et on peut regarder ce qui se passe ailleurs. Donc c'est assez léger. Je suppose qu'il y a des matériels qui ont plus de failles que d'autres, et que ça, les cybercriminels le savent, et savent les reconnaître.
Alors, oui, il y a des caméras qui ont plus de vulnérabilités que d'autres. En fait, la clé, c'est qu'il y a surtout des caméras qui sont plus évaluées que d'autres. Donc, sur ces matériels-là, on trouve plus ou moins de vulnérabilités. Et les pirates, en fait, vont les reconnaître simplement en essayant leurs attaques. Et si l'attaque réussit, c'est que le matériel était vulnérable. Si l'attaque échoue, c'est qu'il ne l'était pas. Il n'y a pas vraiment de reconnaissance, forcément, a priori, des matériels à distance. Ils vont plutôt y aller en essayant tout ce qu'ils ont et voir si ça passe.
Il n'y a pas un type de matériel fabriqué dans tel pays dont on sait qu'il est moins fiable que d'autres, moins sécurisé que d'autres?
Non, c'est plutôt des réputations et elles ne sont pas toujours fondées. Donc je ne préfère pas citer de pays ou de marque parce qu'en fait, c'est plus du domaine du fantasme que de la réalité technique.
D'accord, on parle souvent du matériel chinois qui aurait plus de failles que les autres. Ça, ce n'est pas forcément vrai, c'est ce que vous nous dites.
Oui, en fait, il y a du matériel français, israélien, pakistanais. Il y a du matériel qui vient d'à peu près tous les pays et chacun aura ses propres vulnérabilités, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais c'est... pointer la Chine, c'est plus, ouais. C'est plus un réflexe qu'une réalité. Quoi.
Vulnérabilité qui est liée à l'installation ou au matériel en lui-même?
Alors un peu des deux. Il y a des vulnérabilités qui sont liées à l'installation elle-même, c'est-à-dire qu'on va installer une caméra de surveillance quelque part et on ne va pas penser à modifier son mot de passe. Donc là, les pirates peuvent simplement tenter les mots de passe par défaut et il y a des chances que ça marche. Il y a aussi des caméras qui sont branchées dans des réseaux publics et à ce moment-là, on peut accéder à la caméra alors qu'on ne devrait pas. Après, il y a aussi des vulnérabilités qui sont liées à la caméra elle-même, c'est-à-dire que la caméra, elle embarque un petit système, des logiciels, etc. pour pouvoir s'y connecter et le manipuler. Et ces logiciels-là, s'ils ont certaines formes d'erreurs, on peut les pirater. Donc typiquement, la communication qui a été faite ces derniers jours montrait plusieurs failles. Donc par exemple, le système d'authentification qui permet aux utilisateurs de prouver qu'ils sont bien eux, donc le login et le mot de passe, en fait, on pouvait le contourner complètement en mettant un paramètre à un endroit qui marchait bien, ou on contournait complètement ce système-là. Il y a eu d'autres erreurs où, avec une requête particulièrement bien faite, on insère des commandes système dans la requête et le logiciel de la caméra, il a une sorte de bug qui fait qu'il va exécuter vos commandes. C'est pas censé fonctionner comme ça, mais il se trouve que le bug fait que ça exécute vos commandes. Et là, vous prenez le contrôle de la caméra à distance et après, vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez.
Oui, allez-y.
Et la dernière qui avait été publiée un peu plus avant, c'était une attaque carrément sur le protocole réseau entre les caméras et les serveurs, où un pirate pouvait se placer entre les deux et observer les flux réseau qui transitaient.
On est bien d'accord qu'on n'a pas besoin de présence humaine sur place. Il n'y a pas besoin que quelqu'un aille trafiquer un peu les caméras.
Non, si vous avez quelqu'un sur place, c'est encore plus facile pour les trafiquer. Mais là, on parle d'attaque à distance. Et vous êtes ici en France et puis la caméra est en Australie et puis vous avez réussi à accéder aux caméras en Australie.
Ces images, on les récupère une fois qu'elles sont stockées dans des bases de données ou bien on peut voir en direct?
Alors là, on est plutôt sur de l'attaque en direct, c'est-à-dire que vous prenez le contrôle de la caméra comme si vous étiez le propriétaire légitime de la caméra. Du point de vue de la caméra, il n'y a pas de différence, elle vous envoie le flux vidéo. Vous pouvez même aller modifier les paramètres de la caméra pour modifier l'angle de vue, zoomer, faire ce genre de modifications. Après, il y a aussi des attaques sur les bases de données des images, mais là, c'est un autre sujet. Ici, on parle vraiment de l'attaque en direct.
Là, on parle vraiment de direct. Alors, les Israéliens ont dit qu'ils l'avaient utilisé pour localiser et connaître les habitudes du guide suprême iranien et ensuite déclencher une frappe. Mais il y a aussi une société de cybersécurité israélienne qui dit avoir détecté des tentatives de piratage contre des caméras de surveillance au Moyen-Orient et en même temps des frappes, notamment contre le Qatar. Ça s'est produit à Chypre, ça s'est produit en Israël également. Ce serait l'œuvre de pirates informatiques iraniens. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays qui sont capables de faire ça et qui pratiquent cet espionnage aujourd'hui?
Alors, techniquement, n'importe quel pays qui a une agence de renseignement qui comprend des informaticiens est capable de faire ce genre de choses. Donc, en fait, n'importe quel pays peut faire ce genre de choses et techniquement, ils vont le faire en fonction de leurs besoins, etc. La clé, c'est que dans l'espionnage, généralement, on évite d'utiliser les armes qu'on a acquises parce qu'au moment où on les utilise, l'ennemi sait qu'on dispose de ces armes-là. C'est pour ça qu'il y avait une certaine pudeur
on
avant
le fait
à
pas
communiquer
savoir.
Sur ces choses-là.
On ne le fait pas savoir. Est-ce que les Français le font, par exemple ?
Ça ne m'étonnerait pas qu'ils le fassent. Je n'ai pas de preuves techniques qu'ils le fassent, mais je pense qu'ils ont les moyens pour le faire.
On ne le revendique pas, en tous les cas. C'est un système qui ne coûte pas cher. Vous nous l'avez démontré, Thibault Hénin, ce type d'espionnage. Est-ce qu'il y a des solutions pour se protéger contre cela ? Parce qu'évidemment, quand on voit toutes les caméras de vidéosurveillance qu'il y a dans nos villes, on s'interroge aussi sur notre sécurité.
Alors, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est une agence française qui dépend des bureaux du Premier ministre et qui s'occupe de la sécurité informatique en France, a publié un guide justement pour la sécurisation des caméras. Donc, il y a effectivement des mesures qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire modifier les mots de passe, maintenir les systèmes à jour, les isoler sur des réseaux spécifiques. Le problème, c'est que ces mesures-là nécessitent des compétences techniques et certaines ressources qu'en fait, beaucoup de propriétaires de caméras n'ont pas. Donc, je pense particulièrement aux particuliers, mais certaines petites mairies, etc., vont pas forcément maintenir ce cycle de maintenance qui est assez technique et pointu.
Donc on peut quand même faire des choses ?
On peut quand même faire des choses, mais il faut plutôt voir ça comme on est en train de mettre des rustines sur un bateau qui a des fuites un peu partout. Si on veut vraiment être sûr, il vaut mieux les débrancher en fait.
Les débrancher carrément, c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens face aux Russes. Thibault Hénin, vous pouvez nous expliquer ?
Alors l'idée c'est que les caméras qui ont des vulnérabilités, pour savoir qu'elles en ont, il faut faire une veille technologique assez importante, il faut éventuellement découvrir ses propres vulnérabilités, parce que c'est pas parce que certaines vulnérabilités publiques sont connues que par exemple les services secrets étrangers n'ont pas d'autres vulnérabilités qui eux n'ont pas publiées. Donc il faut avoir son propre programme de vérification, ensuite il faut contacter les constructeurs pour qu'ils mettent à jour les logiciels dans les boîtes, et ensuite il faut mettre à jour les caméras en place sur place, et ça fait beaucoup de si et beaucoup de ressources, ce qui fait qu'à la fin, on n'est jamais vraiment sûr qu'il n'y ait pas un trou quelque part. Et donc, la réaction des Ukrainiens, elle est très radicale, mais en fait, c'est la seule qui est saine quand on a vraiment un doute. C'est-à-dire couper complètement à la racine le problème et réduire sa surface d'attaque à zéro. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont débranchées, bon, on ne peut plus les pirater.
Parce que les Russes savaient, grâce à ces caméras, quels étaient les mouvements des Ukrainiens, personnalités ou autres. On va prendre Jacqueline, qui nous appelle 01 45 24 7000. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, moi, c'est un point de vue personnel, mais de citoyen, on va dire.
Ouais.
Je trouve que les caméras dans les quartiers, dans le centre-ville, un petit peu partout, c'est bien. Moi, je suis franchement pour, dans la mesure où la sécurité, je trouve, est quand même assurée. C'est pas, à notre niveau, je ressens pas ça comme de l'espionnage, mais plutôt comme un moyen de retrouver éventuellement les auteurs d'une agression, de vol, de quoi que ce soit.
Et la perspective que nous décrit Thibault Hénin, que des pirates à l'autre bout du monde puissent prendre le contrôle de ces caméras et finalement voir aussi en direct ce qui se passe chez nous dans nos rues ?
Oui, alors ça, c'est effectivement le monde dans lequel on vit. Je crois que être hacké de partout, dans tous les domaines, que ce soit bancaire, que ce soit informatique, enfin, dans tous les domaines, oui, c'est un problème, mais alors là, à un autre niveau, on va dire. Hein.
Merci Jacqueline de nous avoir appelé. Thibault Hénin, il y a un vrai risque pour la sécurité de tout un chacun, mais de personnalité, par exemple, on peut connaître les habitudes d'une personnalité qui, tous les jours, part de chez elle à telle heure, prend sa voiture, revient, donc ça pose des questions importantes.
Oui, mais alors pour moi, les caméras sont qu'un élément parmi beaucoup d'autres. C'est-à-dire que si vous suivez les réseaux sociaux, vous pouvez déjà avoir des informations sur les habitudes des personnes qui s'y trouvent. Et si vous voulez vraiment cibler quelqu'un...
Pas forcément le trajet qu'ils empruntent tous les matins et tous les soirs.
Oui, mais alors là, en fait, la difficulté, c'est que soit vous voulez vraiment cibler une personne, et dans ce cas-là, vous aurez plus de réussite à aller dans le monde réel, à faire de l'espionnage réel, vous vous plantez dans une voiture, ce genre de choses. Le problème avec les caméras, c'est que c'est très opportuniste, quoi. Rien ne dit qu'une caméra à côté de la célébrité que vous vivez est piratable. Donc vous trouverez des caméras, si vous avez beaucoup de chance, c'est celle que vous vouliez, mais il y a aussi beaucoup de chance pour que ça soit carrément une autre caméra et que vous n'en ayez pas besoin, vous.
Est-ce qu'on sait si ça a déjà été utilisé par des criminels pour des kidnappings, par exemple ? Est-ce que ça a pu être le cas ? Par exemple, dans des quartiers où on sait qu'il y a des gens fortunés qui habitent, on essaye d'espionner et puis on verra bien ce qu'on trouve ?
Alors, j'ai aucune information sur ce type d'utilisation des caméras, c'est-à-dire que dans les affaires criminelles qu'on nous a soumises, on n'a jamais eu ces cas-là. Par contre, ce qu'on a vu, c'est plutôt lié à l'opportunisme. C'est-à-dire que les pirates trouvent des caméras chez des particuliers, espionnent les particuliers et ensuite se servent des images pour faire du chantage. C'est plutôt cette utilisation-là qu'on va avoir chez les criminels classiques, on va dire. Le fait de cibler quelqu'un, c'est vraiment lié aux services secrets. Les criminels habituels ne vont pas vraiment utiliser ce biais-là.
Thibault Hénin, notre interview est particulièrement intéressante, mais on ne dévoile pas de secret non plus. Je dis ça pour Jacques, qui nous écrit « Est-ce bien raisonnable de donner la façon de traquer, de tracer les caméras de surveillance pour les personnes malveillantes ?» Voilà sa question. Votre réponse, Thibault Hénin.
Bah, en fait, dire qu'il suffit de programmer un logiciel, c'est facile à dire, mais très compliqué à faire. C'est-à-dire que habituellement, il faut plusieurs années d'études pour apprendre à programmer ce genre de logiciel. Pour vraiment que ça marche, il faut vraiment beaucoup de rigueur, etc. Donc, c'est pas non plus des actions anodines. J'ai pas donné un seul détail. Donc, techniquement, avec ce que j'ai dit, les criminels en puissance ne vont pas avoir grand-chose.
Voilà, absolument. Et on tenait à garder ce cadre, évidemment, dans cette interview et dans ce sujet passionnant qui nous agitait aujourd'hui, qui nous animait aujourd'hui. Merci Thibaut Hénin d'avoir été avec nous direct de Montpellier pour nous parler de ces caméras de vidéosurveillance utilisées et de plus en plus à travers le monde. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton, jusqu'à vendredi, nous sommes sur la route des municipales. Première étape aujourd'hui, Strasbourg, avec trois candidats au second tour. L'ancienne maire socialiste Catherine Trautmann, qui a reçu ce matin le soutien du candidat de droite Horizon. L'accord a été conclu en fin de matinée. La maire actuelle, la verte Jeanne Barseguian, désormais alliée aux Insoumis. Et puis le candidat des Républicains qui veut reprendre la mairie, c'est Jean-Philippe Véter, qui fait face à une gauche qui est donc divisée. Marie Mollet, notre envoyée spéciale en Alsace.
Alors moi je me trouve place d'Austerlitz à Strasbourg, dans le quartier de la Bourse. Il y a des terrasses de café, des vélos tout autour. On m'a dit que c'est ici que j'allais trouver à coup sûr des électeurs écologistes et insoumis. Et j'ai croisé en effet Bruno et Claire, tous les deux électeurs de Jeanne Barseguian, la maire sortante. Et je leur apprends qu'elle vient d'annoncer une alliance avec le candidat LFI.
Ça vient de sortir là ? Ah enfin, c'est bien, ils ont réussi. Pour moi, la stratégie de diabolisation de LFI est extrêmement problématique.
Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup, là, dans les médias, un discours qui vient faire de LFI une espèce de créature qui viendrait porter un programme d'extrême-gauche, dangereux. On est loin de la réalité d'un programme qui, en fait, est quasi un copier-coller de celui de Jeanne Barseguian, en fait.
Si vous deviez prendre les paris sur le gagnant ?
Ça va être très chaud. Ça va se jouer à pas grand-chose. Je crains que ce soit Trautmann. Catherine Trautmann, c'est un peu maman, quoi. Ou la grand-mère. Ça a été vraiment une super mère. Vraiment, on lui doit beaucoup. C'est vrai qu'elle s'est engagée très fortement contre Jeanne Barseguian dès le départ. Ça m'a fait reconsidérer un peu le personnage, le sentiment de plus reconnaître celle que j'avais aimée enfant, parce que j'étais quand même jeune.
Mais complètement, et dans les thèmes de sa campagne et dans ses positions, notamment sur les questions de sécurité, en fait, il y a une droitisation de son programme qui ne correspond plus à la femme politique qu'elle a été et qu'elle représentait pour moi. Il y a erreur sur le produit, là, je crois.
J'espère que Barseguian va passer. Je pense que là, on a cette alliance et un bon signe.
Alors maintenant, on va changer de quartier, plus au nord cette fois, place des Halles, au pied du centre commercial. On va rejoindre les équipes justement de la socialiste Catherine Trautmann qui sont en train de tracter. Et ici aussi, les jeux d'alliance, la question des insoumis sont aussi au centre des conversations.
Une alternative à la maire actuelle, il faut voter pour Catherine Trautmann.
Il y a des anciens LFI dans son entourage.
Non, pas du tout.
Si.
Les discussions avec LFI, c'est Jeanne Barseguian qui les a, c'est pas nous.
Je fais pas confiance.
Je peux vous laisser ce tract, c'est pour la liste de Catherine Trautmann. On est passé en tête au premier tour.
Oui, mais je suis pour elle. Mais la France insoumise, non, jamais de la vie. Vous avez vu un peu qui est à la tête de la France insoumise ? Mais c'est affreux, cet homme, c'est affreux. Je préfère Catherine, et puis voilà, quoi.
Avec Catherine Trautmann.
Elle enlèvera un petit peu les pistes cyclables, elle grattera
un peu.
Non,
elle les corrigera, celles qui sont pas
forcément
bien faites.
Ouais, ça serait sympa.
Voilà, ça n'a pas toujours été bien pensé, quoi.
Oui, c'est ça. Oui.
N'hésitez pas à mobiliser. Tous les gens autour de vous, chaque voix va compter. Hein.
La mère sortante, elle a fait plus de gaspillage d'argent qu'autre chose, hein. Partout où vous allez, il y a des travaux. Vous voyez des pistes cyclables qui sont plus larges que la route.
J'ai vécu sous le mandat de Trautmann. Je sais ce qu'elle vaut. Ouais. Espérons que ce sera la même chose.
Alors les candidates Catherine Trautmann et Jeanne Barseguian n'ont pas souhaité se rendre disponibles pour répondre à nos questions. En revanche, on est allé voir le troisième candidat de ce second tour, le candidat LR, Jean-Philippe Véter. Rendez-vous à son local de campagne. Et lui tente de se poser en troisième voie, loin de la guerre des gauches.
Ça fait quasiment depuis 1989 que la gauche, les écologistes et les socialistes gèrent la ville ensemble. Aujourd'hui, ils se disputent alors qu'ils pensent quasiment la même chose. Ça sent la fin d'un cycle. Eh bien, on incarne ce vrai changement que demandent aujourd'hui les Strasbourgeois. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Madame Trautmann comme Madame Barseguian sont en train de faire des négociations d'arrière-boutique pour pouvoir construire une liste assez improbable. Eh bien, nous sommes parfaitement clairs depuis le début. On a besoin de tout, sauf de petites combinaisons pour pouvoir préserver ses propres postes.
Marie Mollet à Strasbourg, demain nous serons à Lille et jeudi, émission spéciale à Toulouse, un 13-14 en direct et en public. Venez nombreux de la place du Capitole.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mardi, 13h49, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de boutique.
Et je vous emmène, Jérôme, au Val, au Perche. Alors depuis hier et toute cette semaine, un commerce éphémère s'installe dans cette commune de 3400 habitants dans l'Orne. C'est la boutique de Fred qui propose du prêt-à-porter. Elle succède à une vendeuse de vêtements féminins présente début mars, lit-on dans le Courrier de l'Ouest. Alors à chaque fois, ces commerçants investissent temporairement un local municipal de 40 mètres carrés avec une vitrine. Il est situé dans le bourg de la commune historique du Teil-sur-Huisne, à côté de la boulangerie. Tarif de location, Jérôme, 70 euros la semaine, 250 euros le mois. On ne veut pas voir les commerces disparaître, hein, m'a justifié hier Heidi Moulin. Elle est conseillère municipale déléguée et elle se réjouit que la boutique de Fred s'installe avec ses vêtements plusieurs fois par an, même si elle espère qu'un commerçant restera de manière pérenne.
Bon, ça c'est dans le département de l'Orne, mais on trouve, Cyril, des boutiques éphémères dans tout type de communes.
Et dans des communes de toute taille, hein. On en trouve des centaines dans les métropoles, où on les appelle souvent, ça fait peut-être plus chic, pop-up stores. Elles sont gérées par des sociétés privées, ils sont parfois ouverts un seul week-end en lien avec une actualité. Ainsi, début mars à Paris, des milliers de fans du chanteur britannique Harry Styles ont pris d'assaut une boutique dédiée à la sortie de son nouvel album.
Vous n'y étiez pas?
Je n'y étais pas, Jérôme. On en trouve aussi dans des villes moyennes, je n'y étais pas non plus, où des municipalités louent des locaux, il y en a trois à Castres dans le Tarn, qui s'adresse aux commerçants, artisans, créateurs qui ont besoin d'une vitrine, le temps de tester un produit ou de se faire connaître. Et puis, Jérôme, on en trouve aussi en zone rurale. Pour la première fois, Boissy-la-Bertrand, 1200 habitants en Ile-de-France, a accueilli une boutique éphémère fin février. Muriel Merlin, qui a vendu des vêtements, témoigne dans la République de Seine-et-Marne. Cela permet de proposer quelque chose qui n'existe pas au village. On crée du lien social, de l'écoute. On n'est pas là seulement pour écouler un stock.
Mais ce dispositif permet avant tout de développer le commerce.
Ben oui, quand même. Hein. La radio ici au Serre nous raconte l'exemple de Migène, 6700 habitants dans l'Yonne. Plusieurs commerçants, dont un fromager et une couturière, ont d'abord bénéficié de la boutique éphémère de la commune avant de s'installer durablement à quelques mètres de là. Rappelons, Jérôme, que plus de 10% des commerces de centre-ville sont vacants en France. C'est un record. Ainsi, l'implantation plus souple des lieux éphémères figure dans le rapport sur l'avenir du commerce de proximité paru en 2025. C'est aussi le cas, Jérôme, des boutiques à l'essai.
Et comment fonctionnent ces boutiques à l'essai?
Eh bien, les boutiques à l'essai permettent à un commerçant de tester son activité pendant plusieurs mois dans un local vacant avec un loyer réduit et un accompagnement de la commune ou de l'intercommunalité. Et puis si le test fonctionne, le commerçant peut s'installer durablement.
On n'est pas obligé de s'engager pour
non,
du long terme.
Voilà, on essaye, ouais, on voit s'il y a une corrélation avec la demande
si
locale. Exactement.
Okay.
Hein. Avec ce dispositif, on a aidé 230 commerces à ouvrir et 80% ont transformé l'essai, m'a indiqué hier Olivier Bourdon, directeur de la Fédération des boutiques à l'essai. Cette association fédère les différents acteurs propriétaire, enfin en tout cas met en lien les différents acteurs, ouais, propriétaires, locataires et collectivités qu'elle accompagne. Elle compte 150 villes adhérentes. Olivier Bourdon, qui vient d'ailleurs de publier le livre « J'ouvre ma boutique » et qui a lancé un site internet du même nom, m'a indiqué que des locaux à l'essai sont actuellement disponibles, Jérôme, si ça vous intéresse, à Ruffec en Charente, à Montluçon dans l'Allier ou encore à Burbure dans le Pas-de-Calais.
Alors moi, pas forcément, encore que on ne sait pas de quoi demain peut être fait, mais ça peut intéresser nos auditeurs. Le site c'est « J'ouvre ma boutique ». Merci Cyril Petit pour ce C'est la France. Cyril Petit du journal Ouest France, chaque mardi dans ce 13-14 de C'est la France. Ah, c'est une chanson, Julien Baldacchino. On vous retrouve avec votre invité, comédienne et humoriste.
Béatrice Delaboulé qui est de retour à l'écran sur France 2 dans la série Tropique Criminelle aux côtés de Sonia Roland, mais qui est aussi sur scène dans un seul en scène nommé Héroïne, en tournée dans toute la France et qui s'arrête pour deux soirs, demain et jeudi, à l'Européen à Paris. Et comme une résonance avec son spectacle, elle a choisi une chanson nommée Hero, interprétée par Maria Carré.
En fait, je l'ai ressortie des tiroirs il n'y a pas très longtemps parce que j'ai mon one woman show qui s'appelle Héroïne et je cherchais un peu une chanson pour ouvrir, pour commencer sur quelque chose d'un peu joyeux et puis spectaculaire. Et puis évidemment, j'ai repensé à cette chanson de Mariah Carey qui s'appelle Hero et qui débute mon spectacle. Alors bon, j'en fais une version un petit peu parodique, je la chante très fort et très faux et en français par-dessus elle. Donc c'est évidemment un massacre terrible, mais en même temps un hommage parce que d'abord Mariah Carey a une voix éblouissante et franchement elle vient nous chercher dans les tripes et je trouve les paroles vachement puissantes en fait et elles raccordent assez bien avec mon spectacle au final. If you reach into your sorrow and the sorrow that you know will melt away.
Qu'est-ce qu'elle dit justement cette chanson derrière ce côté très grandiloquent, très grande voix? Le message, il est assez simple au final.
Il est super simple et en même temps pas si simple à appliquer. Mais elle dit, il y a un héros ou une héroïne si tu regardes à l'intérieur de ton cœur. Et il faut pas avoir peur de ce que tu es. C'est pas si simple de reconnaître qu'on a une part de soi qui est courageux, dans laquelle on peut avoir confiance et tout ça. Et du coup, ça mérite cette grandiloquence musicale pour aller dire cette chose si simple qui n'est pas si simple à appliquer finalement.
Et que vous avez réussi à appliquer, que vous essayez d'appliquer, qu'il y a un petit combat de tous les jours.
Bien sûr que c'est un combat au quotidien parce qu'il faut lutter contre pas mal de choses, pas mal de croyances extérieures et intérieures. Et moi, j'en ai croisé pas mal des héroïnes et du coup, ça m'a permis de d'aller plus vers l'évidence. Et c'est pas finalement quelquefois, faut pas aller chercher très loin, quoi.
Cette chanson, Mariah Carey, au départ, Julien voulait pas la chanter. À l'origine, elle l'avait même écrite pour Gloria Estefan.
Mais à laquelle elle dit aujourd'hui être très attachée. Alors j'ai demandé à Béatrice de Laboulé quelle résonance cette chanson pouvait avoir.
Bien sûr, elle parle à l'intime parce que on a tous envie d'être des héros quand on est petit. On regarde les super-héros en se disant ouais, j'ai trop envie d'être Superman, Wonder Woman parce qu'on a envie d'être des gens bien. Tout le monde a envie de sauver la planète. Tout le monde a envie d'être le meilleur de soi-même, quoi. Donc bien sûr, elle parle. Et puis bon. Mariah Carey, c'est une diva extraordinaire. Donc, quand la chanson part en... Tu sais, à un moment donné, il y a un break, ça fait... Pouf, et puis, bam. Et là, ben ouais, ça vient toucher au cœur. Je sais pas, c'est le pouvoir magique de Mariah Carey.
Et c'est une héroïne, du coup, Mariah Carey?
Ah oh ben, ouais. Alors après, moi, ce que je vois aussi de Mariah Carey, c'est quelqu'un qui, à la fois, a réussi à devenir qui elle est, c'est-à-dire une espèce d'icône incroyable. Et en même temps... Quelquefois, j'ai l'impression qu'elle a répondu aussi à beaucoup d'injonctions, qu'elle s'est pliée à un marché très dur. C'est une autrice, interprète, enfin voilà, c'est une sacrée compositrice, c'est une diva incroyable et qui a su, je crois, dompter les injonctions, même si il y a une partie d'elle qui les a quand même subies, quoi. Et puis ça me fait aussi penser, si c'est devenu une notion importante pour moi, les héroïnes, c'est aussi parce que c'est un mot que j'entends beaucoup depuis 7 ans avec Tropic Criminel, puisque Sonia et moi, on en est les héroïnes. C'est très agréable parce que les auteurs, la production, les réalisateurs, etc., et réalisatrices, parlent de nous en tant qu'héroïnes. Mais du coup, ça m'interroge, ça veut dire quoi être une héroïne? Ça représente quoi?
Du coup, une héroïne, c'est pas la même chose qu'un personnage principal?
Oui, exactement. Personnage principal et héroïne, ça sonne pas pareil. Et je suis beaucoup plus encouragée dans une mission quand j'entends qu'on est des héroïnes. J'ai l'impression que c'est porteur de valeurs, que c'est porteur d'une mission particulière, oui.
Hero, Mariah Carey, c'était donc Julien, le choix de Béatrice de Laboulé.
Sur scène donc dans son spectacle Héroïne à Paris, à l'Européen, demain et jeudi. Et le reste du temps, tournée dans toute la France.
Merci Julien, je vous dis à demain.